croisé un ami il y a un an, là. Enfin un ami. Un pauvre gars, 24 ans, à la rue, quoi. Une histoire familiale un peu compliquée, puis on s'est croisé, on a passé quelques jours à faire toutes ces démarches possibles, imaginables. On s'est trouvé une solution pour lui, quoi. Tous les gens qu'on ignore, qu'on ne cherche pas à savoir trop d'où ils viennent, et de quoi ils auraient besoin, de quoi ce qu'on pourrait faire pour les aider un petit peu, quoi. Se connaître tout simplement. Enfin, moi, je suis dans pas mal d'organisations, des collectifs pour l'hébergement, ou essayer d'ouvrir des squats avec des gens, malgré les lois un peu compliquées. Voilà, on a eu l'occasion de loger quelques familles, après ça s'est un peu arrangé pour elles aussi. Au moins pendant une période un peu difficile l'hiver, d'essayer de les caser au chaud, quoi. Ah oui. Et puis j'ai l'occasion de rencontrer des gens assez formidables qui n'ont rien, mais ils offrent le peu qu'ils ont. Je suis un peu de marionnette, alors c'est des soirées comme ça où on m'invite. Je sais pas où j'atterris, et puis ça se passe super. Voilà, c'est des choses comme des moments fous, avec des gens du bout du monde qui ont l'occasion de se confier un petit peu, puis pareil, on raconte notre histoire à nous. Au-delà de la langue, des fois, c'est même pas des mots, c'est des gestes, des regards, des clins d'œil. On se marre, un peu de musique, et puis voilà.
Je suis fille d'immigrés espagnols. Mes grands-parents sont venus avant. Mon père est reparti en Espagne à sa majorité. Il a déserté l'armée espagnole parce qu'il ne voulait pas être dans l'armée de Franco. Il s'est caché. Il a connu ma maman. Il a eu deux filles. Et il nous a ramenés ici en France. Mais ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu qu'on arrive séparés. Ma maman et nous d'un côté, et mon papa de l'autre, clandestinement. Clandestinement, de toute façon. Oui, il voulait passer la frontière sans se faire voir de l'armée espagnole. Et nous, on a atterri dans un camp de concentration à Carcassonne, j'avais un an et demi. Mes grands-parents sont venus nous chercher deux fois. Une fois, on les a rejetés, puis une fois, ils nous ont emmenés avec eux dans un petit village qui s'appelle Alvar. Et c'est à Alvar que j'ai fait ma jeunesse. Et c'est à Alvar que j'ai trouvé un bonheur extrême. Dans la nature, dans la vie avec les autres, le contact avec les autres. Voilà. Je me suis épanouie ici en France. Mais j'adore mon pays. J'y suis allée dernièrement avec des amis du groupe d'Espagnols. Et j'ai senti mes pieds qui étaient chez moi.
L'exil. L'exil. Départ, retour, retour sur soi. Est-ce qu'on part vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment en mouvement? Ou est-ce que c'est le monde qui bouge autour de nous? Non, rien ne bouge vraiment. C'est notre conscience qui change, qui évolue ou pas. Tout est question d'équilibre. Il faut juste trouver sa place. Ici ou ailleurs, l'exil sert à trouver sa place.
J'aime bien cette idée des silhouettes qui tournent le dos parce que c'est des silhouettes qui du coup sont à la recherche de quelque chose. On ne sait pas où elles vont, on ne sait pas quel est le visage caché par ce dos. Et moi, j'ai vraiment le sentiment de silhouettes qui sont à la quête de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'elle-même. Je trouve que le fait de les voir de dos, ça invite à la poésie, à l'imagination, parce qu'on n'est pas dans quelque chose de frontal. Et du coup, il n'y a pas de visage, elles ne sont pas identifiées, c'est tout le monde, parce qu'on est tous finalement on est tous en exil, de toutes les façons. Donc voilà, de ne pas pouvoir les identifier, puis on est tous de passage aussi, donc voilà, c'est pas la peine de voir les visages, c'est de voir les gens en mouvement qui est intéressant.
L'exilé, en fait, est un peu tout, c'est-à-dire il est un peu lui-même, mais aussi il est obligé de prendre l'uniforme de là où il est, donc il est un peu lui-même et son contraire. Et puis j'ai mis la tête dans les nuages, parce que je pense que dans sa tête, malgré tout, il a c'est sa part de rêve, etc. Quoi. C'est quelqu'un qui vient en général de loin, avec une culture différente, et il est obligé de se mettre un peu dans la culture du pays, enfin de l'endroit où il arrive. Donc c'est un peu, enfin, au moins au départ, c'est un peu contre nature. Et puis après, c'est, malgré tout, c'est quand même lui-même, puisqu'on retrouve les mêmes couleurs, mais dans un ordre un peu différent. Donc il reste lui-même, mais en étant quand même... c'est quand même quelque chose qui change la personnalité, quoi. Alors, on pourrait reprendre les clichés qu'on entend à la radio, hein. Ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être un tas de choses, des problèmes de sécurité, etc. Mais je pense que quand on va vers un pays, on cherche quand même un bien-être, enfin quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on a là où on est. Donc on cherche quand même à baigner dans quelque chose de plus agréable. Alors soit économique, soit politique, soit la sécurité, etc.
Moi, j'aimerais pas voyager. J'aime pas voyager. Parce que, en fait, vu ce qu'on voit sur les infos, et ben ce qu'on voit sur les infos, et ben moi j'aime pas. Il y a des gens, ils partent de leur pays pour aller dans un autre pays. Comme il y a la guerre dans un pays, ils doivent aller dans un autre pays. Où il n'y a pas la guerre, mais ils doivent avoir leur passeport, sinon ils retournent direct dans leur pays. Donc ça sert à rien d'avoir pas de passeport. Mais quand même, on peut quitter son pays sans avoir un passeport. Je ne ferai jamais ça. Sortir d'un pays sans passeport, ça n'a pas d'intérêt. Parce que si tu passes pas par la douane, ben tu pourras vite... vite retourner dans ton pays. Donc il y a des gens, ils passent de leur pays, mais ils n'ont pas leur passeport. Du coup, eh ben, ils passent quand même, et après ils se retrouvent. Et il n'y a pas la guerre dans un pays. Et ça, eh ben, si les policiers le voient, il n'a pas son passeport, il n'a rien, ils repartent dans leur pays direct. Il n'y a pas de négociation. Direct dans leur pays. J'aimerais pas ça. J'aimerais pas que y a la guerre dans notre pays. Et j'aimerais pas que nous on parte sans notre passeport. C'est ça que j'aimerais pas.
C'est intéressant comme histoire en quelque sorte, parce que c'est créer des personnages qui n'ont pas de visage et du coup c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et puis du coup quand on les regarde on a envie de voir l'autre côté pour voir un visage, pour voir quelqu'un, et puis finalement on voit un autre dos et du coup on sait pas trop. C'est gênant, on le voit pas. Mais on pourrait le deviner qu'elles se ressemblent, mais qu'en même temps, elles ont quelque chose de différent dans la tête. Elles sont pareilles physiquement, mais psychologiquement, en quelque sorte, elles seraient différentes. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Qu'il n'y a pas que physiquement que les gens peuvent être différents. Disons qu'ils iraient un peu où ils veulent, que ce soit dans des pays qui existent ou que ce soit dans l'imaginaire de quelqu'un. Ils vont là où les gens, en quelque sorte, ont besoin d'eux. Enfin, où ils sont bien. Ils s'arrêtent et puis ils repartent.
Je pense à la marche de dimanche dernier. La marche pour Charlie Hebdo. Du silence, des couleurs et puis pas de bruit. Les paroles, elles viennent des silhouettes des gens qui défilent. Il n'y a pas besoin de slogans, de pancartes, de cris. Voilà. C'est la couleur qui parle, c'est les formes, c'est cette fuite. On ne sait pas où ils vont, mais ils marchent. Quand on baisse le dos, quand on est un peu la cible de plein de choses, d'exclusion, c'est vrai qu'on n'est pas en face. C'est toujours de dos, c'est toujours une porte qui se ferme, dans laquelle on nous fait filer, puis on regarde dans un couloir, dans une rue, bien sûr. De face, ça trompe, parce qu'on verrait le visage de la personne, on pourrait tout de suite y mettre un sentiment, n'importe. Là, ça laisse rêver, penser à la place des gens. C'est plus évocateur encore que de voir le portrait ou le visage de la personne. Ça permet de penser plein de situations comme ça.
Exil, ex-il, donc ex-ancien ou sortir de, il, il, lui, ou alors il phonétiquement l'île avec ses limites bien précises de l'océan et de la mer, qui ont toujours inspiré les personnes y vivant à y sortir, sauf que l'exil, en fait, on choisit pas de le faire, on est plutôt contraint par des raisons plutôt déplaisantes pour le genre humain. Et voilà, donc exil, sortir de son île. Et si tous les exilés pouvaient sortir librement de leur île intérieure ou de leur île extérieure, le monde serait peut-être plus heureux.
Je suis arrivé après la mort de Franco. Ouais, donc c'est un peu politique, si vous voulez. Hein. Quand je suis arrivé en France, donc c'était une autre monde. Voilà. Bon, c'était une autre monde. Je ne maîtrisais pas la langue, je ne connaissais pas la culture française. Bon, donc, il y avait tellement de choses. C'était un changement presque 100% pour moi. Bon, je dis, bon, ben, je viens de naître une autre fois, donc c'est un autre monde pour moi, vous voyez. Je trouvais quoi, ma façon de vivre tranquille, hein, vous voyez, tranquille, soi-disant. Hein, je n'ai pas tranquille n'importe où aujourd'hui. Hein. Mais bon, je me sens bien, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un peu la nostalgie du pays, mais bon, ça, c'est on peut rien faire. Là, donc voilà, donc il y a un peu de joie. Donc, maintenant, bon, bah, la culture de mon pays, et en plus, bon, bah, c'est une autre culture que je ne connaissais pas, que c'est très riche. La culture française, pour moi, c'est extraordinaire, vous voyez. Hein. Et voilà, donc, j'ai pris de choses nouvelles dans un autre pays. Mais, je suis tombé en France, mais si j'aurais tombé, par exemple, en Angleterre, j'aurais fait la même chose. Hein, parce que pour moi, l'important, c'est apprendre, vous voyez. Et on est dans un monde qui bouge beaucoup. Donc, la question, je dis toujours, les gens qui m'entourent, la question c'est apprendre dans cette vie, vous voyez, hein? Et ça c'est la seule richesse que vous pouvez obtenir pour vous-même, et c'est la seule richesse dans laquelle bon, il n'y a pas de, c'est impossible de l'acheter ni de la vendre, c'est-à-dire que c'est la culture que vous apprenez pendant votre vie, c'est une culture qui reste bien dans la tête, et ça c'est... Je crois que quand on a une culture comme ça, parce qu'on l'a appris par soi-même, c'est une richesse extraordinaire. Mais moi, c'est l'argent, bien sûr, il faut vivre. Il faut vivre, donc il faut de l'argent pour vivre. Hein. Mais je crois que, par exemple, la deuxième richesse, la deuxième, non, c'est une des premières pour moi. C'est plus important que l'argent, c'est la culture. Vous voyez, hein. Donc voilà, je dis que s'il y a la santé, bon, ben, il y a tout.
En fait, elles évoquent l'histoire de mes grands-parents qui sont partis de leur pays et qui sont venus habiter en France. Et donc, c'est un peu l'histoire familiale. Voilà. Et c'est vrai que... Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on traverse par rapport à... la discrimination par rapport à l'autre, par rapport à la différence, et voilà, je crois que c'est l'ignorance de l'autre, et c'est l'ignorance des gens. Quand on connaît pas quelqu'un, quand on connaît pas les autres et qu'on est ignorant de tout ça, voilà, on les voit pas et donc on les ignore. C'est ce qui est, je crois, c'est vrai, ce qui est fort, ce qui est peut-être pas forcément compréhensible, mais c'est quelque chose de très fort.
Alors, moi, j'ai choisi une silhouette de femme qui s'en va, qui est obligée de s'en aller devant la guerre et qui garde la clé de sa maison parce qu'elle pense bien qu'un jour, elle reviendra en Palestine. Je pense aussi à ce que m'a raconté un conteur libanais. Lorsqu'il y avait la guerre au Liban, sa mère plantait une graine ou une plante pour chacun de ses enfants. Et chaque jour, elle s'occupait de ses plantes comme si elle s'occupait pour protéger ses enfants ou ses petits-enfants.